chers amis, bonjour pour cette nouvelle émission sur Radio Courtoisie. Vous ne pourrez pas nous appeler parce que cette émission est en différé pour le mois donc de juillet. Elle est en différé, donc bon, vous nous écouterez avec passion car mon invité est passionnant. Vous savez que cette émission est en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui est désormais la seule école de sciences politiques de France. Il est inutile d'expliquer pourquoi, compte tenu de tout ce qui se passe dans les prétendues écoles de sciences politiques de France. On s'occupe plus de la promotion du califat que de sciences politiques véritables. Donc, à l'ICEP, vous êtes certain d'avoir une formation en sciences politiques. Il y a beaucoup de choses nouvelles pour l'ICEP, mais je préfère ne rien vous dire encore. Allez sur le site et voyez ce qui va se passer, mais des choses très intéressantes pour cette école. Aujourd'hui, je reçois le docteur Olivier Pichon, que j'ai déjà fait venir ici, qui est un docteur en économie et qui est passionnant, comme d'habitude, un grand intellectuel en matière économique sur un thème qui est plus complexe qu'il n'y paraît, portant sur la monnaie. Cette monnaie si proche et si lointaine, on va essayer, on n'y arrivera pas, mais on va essayer en une heure et demie de faire un tour d'horizon de la monnaie. Je suppose qu'on n'y arrivera pas, mon cher docteur, et que nous serons obligés de vous faire revenir si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ça m'étonnerait compte tenu de la richesse du sujet. Et d'abord, un petit peu d'histoire, parce que la plupart des gens ne comprennent pas trop ce que c'est que la monnaie. Ils comprennent bien ce que c'est que le troc, mais justement, ils savent pas pourquoi on en est passé à la monnaie. On sait les trois fonctions de la monnaie selon Aristote, mais je vais vous laisser développer tout ça. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'histoire, dans la plus haute antiquité, l'histoire de la monnaie? Je crois que les premières monnaies qu'on ait trouvées, c'est même pas dans l'Égypte, c'est chez les Phrygiens, là, ou chez le Pactole, oui. C'est ça?
Alors, Yvan, d'abord, merci de m'inviter.
Oui.
Je suis heureux de retrouver les studios de Radio Courtoisie que j'ai longuement fréquentés pendant un temps, dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître,
oui.
Mais je vous fais un reproche, vous m'avez piqué mon titre, car vous avez dit « La monnaie si proche et si lointaine », c'est en effet le titre d'un de mes articles. Pourquoi cette monnaie est-elle si proche? Parce que nous l'avons tous dans notre poche. Mais qui sait comment elle se fabrique, d'où elle vient?
Voilà, c'est ça.
Nos concitoyens ne savent pas.
Mais oui, j'en profite pour faire un peu de promotion de vos ouvrages. Voici un livre, alors qui est loin de concerner tout notre sujet, qui s'appelle « De l'or à la monnaie papier, le changement d'ère entre 1914 et 1939 ». Ça a été une période très intéressante et très importante pour vous, avec la guerre des monnaies et tout ça, c'est ça?
Absolument, oui.
Et puis, un deuxième ouvrage, mais vous étiez venu déjà en parler sur Radio Courtoisie. C'est vraiment pour rappel, parce que là, pour le coup, c'est pas la même chose. C'est « Les nouvelles routes de la servitude », où vous faisiez évidemment allusion à un autre titre d'un philosophe politique.
Hayek.
« Les routes de la servitude », Hayek.
Et je parle du problème du veau d'or et du problème de la finance internationale sur laquelle nous viendrons en dernière partie.
D'accord.
Mais ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est que en réalité, nous allons aboutir à une actualité qui est brûlante avec la monnaie numérique. Mais si vous me permettez, allons balayer dans un premier temps.
Oui, voilà, c'est ça qui est
l'histoire de la monnaie. Et vous avez évoqué Aristote. En fait, Aristote est le premier à définir la monnaie,
théoricien
et ça reste une définition reprise par tous les économistes.
Ouais.
Je me souviens que M. Raymond Barre, dans son livre « Économie politique », nous disait déjà...
Le meilleur économiste de France, disait Giscard d'Estaing.
Oui, c'est ce qu'on disait à l'époque. Oui.
C'est autre chose.
C'est évidemment l'aune de la valeur, c'est l'intermédiaire des échanges, nous disait encore Aristote, et un instrument de réserve de valeur. Alors, sur ce troisième point, nous allons voir que, avec l'inflation, par exemple...
Oui, forcément, elle perd de la valeur.
Ça, l'inflation n'est pas un phénomène que nous connaissons seulement aujourd'hui. Il y a très longtemps que les hommes ont repéré ça, et il y a quelques grands intellectuels tout à fait remarquables de la pensée française que j'aurai l'occasion, j'espère, de citer.
Alors, qu'y avait-il avant, pardon?
Alors, avant,
faisons un peu d'histoire.
On échange avec des coquillages. Bon, des coquillages ou des objets qui semblent un peu précieux. Mais en réalité, le but n'est pas la valeur en soi, c'est l'échange, et bien supérieur au troc. Car c'est vrai qu'à l'origine, les hommes troquaient, et on peut localement encore troquer un service. Mais je rappelle quand même que si le garagiste a mal aux dents, il faut que le dentiste ait sa voiture en panne.
Oui, c'est ça, sinon il n'y a pas d'échange possible, il n'y a pas de troc possible.
Donc la monnaie est une invention tout à fait géniale,
oui.
qui correspond au génie de l'humanité, même si elle connaît des développements où, évidemment, les turpitudes les plus absolues, les plus totales, comme... le veau d'or est toujours debout.
Mais justement...
On pourrait presque le chanter à l'antenne, mais le veau d'or, c'est évidemment cet extrait du Faust de Gounod, qui est un morceau superbe quand il est chanté par des basses russes ou bulgares, comme Boris Christophe, par exemple.
Oui.
Le veau d'or est toujours debout. Bon, je m'arrête là, car...
Mais alors,
je craindrais que...
Oui, mais justement, vous dites le génie humain, les Égyptiens, Dieu sait, c'est une grande civilisation qui, à elle seule, aujourd'hui encore, aura duré plus longtemps que tout ce qui a suivi depuis
c'est
lors.
Vrai, c'est vrai.
Eux n'ont pas de monnaie.
Ils
ont quoi? Du blé? C'est de là que vient « j'ai du blé »
Oui, probablement, oui.
L'expression « j'ai du blé ».
L'expression argotique. Alors, pourquoi monnaie? Tout ça, c'est un peu un hasard, en fait, le mot « monnaie ». Parce qu'à Rome, on frappait les monnaies dans le temple de Junon Moneta. Mais Junon Moneta n'avait rien à voir avec la monnaie. Junon Moneta, ça vient de Monéo. C'est Junon qui prévient, qui annonce. Vous voyez. Donc, la monnaie...
Comme monition, tout
monition,
ça. Voilà, ouais.
Prémonition.
Oui, oui, prémonition, tout ça.
Donc, les proto-monnaies sont des coquillages, mais des objets divers. Bon, très vite, on va voir des animaux sur les premières monnaies. Pourquoi ?
Ces premières monnaies, n'allons pas trop vite, je fais confiance au grand professeur que vous fûtes. Ces premières monnaies, elles sont frappées, donc, je disais, en Lydie, c'est ça ? Elles sont frappées dans ces régions-là.
Lydie, oui. La Lydie qui se situe aujourd'hui en Turquie.
Ça c'est les envahisseurs. parlons du monde grec en général.
Sur la Lydie, il y a eu plus qu'un envahisseur.
Oui, cela dit, oui. C'est en Anatolie, en Asie mineure, disions-nous jadis. Et donc c'est là qu'on frappe les premières monnaies, mais pourquoi là?
Alors,
donc l'État s'arrange.
Non,
c'est pas ça.
Attendez l'État. Attendez,
il
va venir, vous inquiétez pas.
Surtout qu'il va venir plus tard.
En réalité, c'est parce que nous avons une économie relativement dynamique localement, avec des grands troupeaux de moutons. N'oubliez pas le mouton. Le mouton, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on met une tête de mouton sur une pièce? Tout simplement parce que le mouton, c'est le cuir qui vous permettra de vous vêtir ou de construire même une tente. La laine, évidemment, la viande...
Donc c'est une matière première.
Le lait.
D'accord.
Le soin pour vous éclairer.
Ah oui.
C'est-à-dire pratiquement tous les besoins de l'époque, couverts par ce pauvre animal dont nous avons... Combien avons-nous égorgé de moutons depuis...
Oui, c'est ça.
3000, 4000 ans. Bon. Alors, très vite, on va voir intervenir le souverain. Le souverain... À ce moment-là, la monnaie était privée, en quelque sorte. On pouvait convenir de choisir un intermédiaire des échanges, pour reprendre les termes d'Aristote, mais lorsque le souverain est assez fort, lorsque l'État est suffisamment puissant, à ce moment-là, il ne va pas mettre une tête de mouton, il va mettre sa tête. Alors, c'est ce qui nous vaut des quantités de monnaie avec tous les souverains de la planète.
Donc, avant ça, on va doucement...
Oui.
Avant ça, c'est presque comme une lettre de change, en fait.
Alors, attendez, pour la lettre de change, c'est plus complexe, parce que la lettre de change, elle vise à, justement, éviter le transfert de monnaie.
Vous
voyez ? Donc, et la lettre de change n'est pas l'ancêtre du billet.
D'accord.
C'est plus complexe. On en parlera un petit peu plus tard, si vous voulez bien.
Bien sûr.
Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça s'invite aussi dans l'affaire, évidemment, les métaux précieux. L'or, l'argent, le cuivre, le bronze.
Alors, pourquoi ?
Eh bien, essentiellement, eu égard à leur rareté relative, et puis, disons-le, leur beauté aussi. L'or et l'argent, c'est...
D'accord.
Même le cuivre.
Le cuivre est très beau aussi,
bon, mais attention, très vite, alors, s'impose une loi d'un économiste anglais du XVIe siècle qui était l'économiste de la reine Élisabeth Ière. Il s'appelait Gresham. Et la loi de Gresham reste vraie. La mauvaise monnaie chasse la bonne.
Oui.
C'est-à-dire que l'or est thésaurisé et on voit circuler l'argent. Le rapport or-argent, c'est pratiquement 1,15, 1,16.
1,15 sous l'Antiquité, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il est à...
Alors, l'argent a pris une surcote récente, mais on en parlera aussi.
Oui,
simplement, il faut voir que cette loi de Gresham nous a valu le fait que, en français, nous parlons de l'argent. Or, pourquoi nous parlons de l'argent? Parce que c'est la petite monnaie qui était de l'argent, et qui circulait plus que l'or.
Plus que l'or, oui.
Et donc, si vous allez en Angleterre et que vous dites « Have you got any silver ?»
On ne dit pas « silver ».
On ne dit pas « silver », »,« Have you got any money ?»
Mais oui, oui.
Voilà. Donc, évidemment, le mot « argent » tient au fait que la France a été très longtemps bimétallique. Bon. On verra qu'au XXe siècle, elle essaiera même de créer une union latine bimétallique. Ça sera un échec. Bon, on en reparlera éventuellement, mais d'ailleurs, toutes les unions monétaires sont des échecs. Je me permets de vous signaler que l'euro est une union monétaire.
je comprenais l'allusion.
Bref, voilà. Alors, l'évolution, c'est évidemment le souverain qui aura la main sur l'évolution au cours des siècles, mais le souverain va se transformer très souvent en faux monnayeur.
En faux monnayeur, oui.
C'est le premier des faux monnayeurs, et c'est ce que les hommes du Moyen-Âge appelaient le morbus numericus. Tout simplement, l'abus du droit de seigneuriage.
Ouais.
C'est-à-dire que va faire le souverain? Il va vous frapper une pièce dans laquelle il n'y aura que 80% d'or.
Mmh. Bon. Mais déjà, sous la Rome antique,
bien sûr, évidemment. Mmh. Mais, et le changeur qui s'installe sur un banc au marché, d'où la banque, évidemment. Et le changeur, il a une petite balance, un petit trébuchet, et il prend la pièce. Il la fait sonner sur son banc. Et à l'oreille, il dit, le titre n'est pas bon. Il n'y a pas que de l'or, il y a du cuivre.
À l'oreille?
Et il fait sonner à l'oreille.
Ah,
sonnant, les espèces sonnantes, trébuchantes.
Les espèces sonnantes.
Et le trébuchet, ensuite, permettait de peser la monnaie pour voir si elle correspondait au titre officiel.
Alors, c'est d'ailleurs une question comme celle-là qui aboutit à la découverte d'Archimède, Eureka. C'est pour voir si une monnaie était trichée ou pas. Il y avait une histoire comme ça, avec, selon le poids.
Oui, parce que dès l'Antiquité, on trichait, bien entendu.
Ouais, ouais.
Mais alors, ce droit de seigneuriage, qui est généralement un monopole d'État, il ne faut pas croire que ça a été aboli par la Révolution française. Ça continue. Aujourd'hui, l'État émet de la monnaie à quasi-discrétion. Nous verrons qu'elle est devenue d'ailleurs un pouvoir discrétionnaire beaucoup trop gros, beaucoup trop grand. Et c'est le vieux débat qui va structurer toute l'histoire monétaire entre savoir si la monnaie est une affaire privée ou si elle est une affaire publique. C'est très difficile de trancher.
Oui, bien sûr.
Mais, aujourd'hui, par exemple, les gens me disent « Ah ben, le bitcoin, c'est une monnaie numérique, donc...
Pirate,
pas du tout. C'est l'expression de la liberté individuelle, de l'individualisme même de nos sociétés, mariée avec la technologie. Mais c'est pas du tout une monnaie d'État. C'est la monnaie privée par excellence. Alors, l'astuce du japonais qui inventait le bitcoin, c'est d'avoir plafonné l'émission. Et c'est une très bonne idée.
De façon à éviter justement l'assouplissement quantitatif.
Ce que l'État ne fait pas.
L'État ne fait pas, voilà.
Oui. Et donc, mais en fait, voilà, le bitcoin, c'est le symbole de notre époque, mais c'est une monnaie privée mariée avec la technologie, avec les énormes machines à moulinets.
Très, très consommatrices d'énergie.
Et très polluantes, en effet.
Ouais, ouais.
Et consommatrices d'électricité. De l'autre côté, la monnaie numérique, auquel nous allons aboutir à la fin de notre émission et avec l'Europe, c'est une monnaie discrétionnaire, publique, de l'État. Et si elle a une forme numérique comme le bitcoin, elle n'est pas du tout une monnaie privée, mais publique. Nous y reviendrons.
Oui, oui, oui.
Mais le droit de seigneuriage, donc, s'est maintenu sous la République, car la République émettait la monnaie de façon parfois abusive.
Donc, j'ai peur qu'on aille trop vite, mon cher docteur Pichon, oui. Parce que si on revenait à Aristote, premier théoricien, pour lui, il y a trois fonctions de la monnaie, et on a un peu glissé là-dessus, peur.
Fonction de la monnaie, nous disons, estimation de la valeur, intermédiaire des échanges, et instrument de réserve de valeur. Mais Aristote, pour lui, la monnaie, ou l'argent si vous voulez, n'est pas productif par nature. Vous voyez, il condamne le prêt à intérêt, qui a été longtemps condamné par l'Église catholique, puisque l'Église catholique... L'islam aussi condamné, le prêt à intérêt aussi. Donc, tout profit cache un prélèvement injuste, au détriment de quelqu'un.
Ce qui se discute...
Ça se discute,
parce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a un épargnant qui se fait créancier,
oui,
mais qui se prive de consommer pour prêter, et donc il investit lui aussi...
C'est quand même respectable.
C'est respectable, c'est ce que je dis.
Le problème, c'est l'argent n'est quand même pas productif par nature, sauf qu'il l'est devenu.
Ouais.
Parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle une économie monétaire. Vous savez, la BCE vient d'augmenter de 0,25 ses taux pour lutter contre l'inflation. Ça va encore faire baisser la croissance qui était misérable. Mais ça va profiter aux investissements monétaires. Parce que maintenant, nous avons... et au détriment probablement des investissements boursiers et des investissements dans les entreprises en général. Parce que maintenant, il y a une véritable valeur monétaire, mais totalement numérique, totalement abstraite, qui fait la richesse de certains. Et actuellement même, la dissociation très forte entre celui qui va investir dans l'industrie et qui va attendre 10 ans le retour sur investissement pour un rendement de 2%, et celui qui investit dans la finance et qui a un rendement de 5, 10, 15% plus que cela, parfois je ne parle pas des privés, je parle des acteurs de haut niveau, et comme BlackRock par exemple, et qui ont un retour sur investissement, hic et nunc, dans les quelques mois qui suivent.
Oui.
Et cette dissociation entre l'économie industrielle et l'économie financière est un des mots de la mondialisation et de notre époque.
Mais elle aboutit toujours à une bulle qui éclate un jour.
Il y a les bulles, oui, il y en a toujours. Sauf que c'est le propre du capitalisme.
Mais oui,
c'est comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne par bulle, en quelque sorte. Alors, un milliardaire d'extrême gauche... qui s'appelle... son nom est en train de m'échapper...
Il y en a beaucoup d'extrême-gauche sociétale, vous voulez dire Français
Un Français, oui.
Ils sont nombreux. Le Pigas.
Mais il n'y a pas pire que Pigas. Mais quoi qu'il en soit, il est en train de dire que le capitalisme agonise. Il n'a pas compris. Le capitalisme, c'est un phénix.
Oui.
Il passe son temps...
Oui, à renaître de ses cendres.
Oui. Bon, il se transforme. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est. Voilà, c'est tout. Donc, les bulles en question sont inhérentes.
En tout cas, les réponses qu'on a voulu lui apporter sont tellement pitoyables et destructrices que...
Alors, je voudrais revenir quand même à ce problème posé par Aristote. L'argent ne crée pas de richesse. Mais il y a quand même une forme de vol qui existe par l'inflation.
Oui, bien sûr. Oui.
Parce que
le vol des créanciers.
Alors, le créancier, en l'occurrence, il est pénalisé. Vous avez raison.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais qui gagne dans l'affaire? Il y a deux gagnants.
Bon. Le débiteur.
Le débiteur, évidemment. Et quel est le principal débiteur en France?
L'État.
C'est l'État. L'État intérêt à l'inflation, évidemment.
Sur la terre. Oui, bien sûr.
3 500 milliards de dettes. Donc, l'inflation diminue la valeur réelle de sa créance, de sa dette, pardon.
Oui.
Donc, et puis, évidemment, ceux qui prêtent sont pénalisés, bon, bien sûr. Et puis, ceux qui ont des revenus fixes, c'est-à-dire les salariés,
les rentiers, les retraités,
ils voient évidemment leur pouvoir d'achat diminuer
s'éroder,
à l'occasion de cette inflation.
Oui.
Mais, attention, le phénomène n'est pas nouveau. Il est en discussion dès le XIVe siècle en France. Je voudrais quand même citer la mémoire du génial Nicolas Aurem. J'ai un grand faible pour cet évêque. Mathématicien, physicien, astronome, théologien. Il est né vers 1320, vous voyez, à Fleury-sur-Orne, près de Caen. Et il comparait les mutations de la valeur métallique, de l'usure, et conteste au prince le droit d'établir arbitrairement la valeur de la monnaie. C'est quand même génial.
Oui, c'est un grand bonhomme.
Et alors, il débat avec un autre, le sire de Malestroit, qui dit, tout ça, c'est le technocrate. Le sire de Malestroit, il dit, non, c'est pas grave, ça. C'est normal, c'est les attributs de l'État. Il a tout pouvoir en la matière. Mais, évidemment, le premier théoricien de l'inflation, c'est pas Orem. C'est Jean Bodin.
Le génial Bodin.
Angevin du XVIe siècle, qui, au fond, est le premier à formuler la théorie de l'inflation. Alors, ce que les économistes appellent aujourd'hui pompeusement la théorie quantitative de la monnaie, bon, en réalité, qu'est-ce qu'il observe ? Il observe l'arrivée des galions espagnols, chargés d'or et d'argent, hein, comme un vol de Gerfour du charnier natal, etc., etc., vous connaissez. Bon, eh bien, ces galions reviennent chargés d'or. Et alors, ça permet de monnayer, de faire des mètres de la monnaie, laquelle d'ailleurs, monnaie, c'est très intéressant, ne va cesser d'appauvrir l'Espagne. Puisque l'Espagne...
Ça, c'est très intéressant, parce que je ne suis pas certain que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent ce principe. L'Espagne, donc, apporte énormément d'or et d'argent.
Oui.
De son empire américain.
Oui, mais en Europe. Mais du coup, elle a de quoi acheter.
Oui.
Elle achète à l'Europe entière.
Voilà.
Des
artisans. Voilà, c'est ça.
Et l'or se retrouve.
Et Hollandais, compagnie.
À Sienne.
Oui, nord de l'Italie, oui.
En Italie.
Oui.
En Allemagne. Par exemple,
les frères. Et eux, ils apportent une valeur ajoutée.
Ben oui,
ouais, bien sûr.
Où ils financent l'élection de Charles Quint. c'est extraordinaire. Mais donc, l'or et l'argent filent dans toute l'Europe et irriguent l'Europe. Mais à partir du moment où l'Espagne a la monnaie, elle peut tout acheter, sauf qu'elle s'appauvrit. C'est l'histoire de l'Espagne de Philippe II jusqu'au XVIIIe siècle, c'est l'histoire d'une lente décadence.
C'est ça, oui. Et c'est le piège qui menace les monarchies du Golfe et tout ça, avec leur rente pétrolière,
exactement,
en fait.
Ouais. Exactement. Ouais. C'est l'économie de rente. Bon. Alors, Jean Bodin observe ceci. On monnaie beaucoup plus, on émet de la monnaie en plus grande quantité, puisqu'on a du métal, que la monnaie est métallique. Et il observe conjointement l'évolution du setier de blé. Le prix du setier de blé, qui est un indice phare, en quelque sorte. Hein.
Ça correspond à quel poids, ça, le setier ?
Le setier, je ne me souviens pas, mais c'était la mesure du 16e, à l'époque.
Mmh. Hein. Mmh.
Le setier de blé n'arrête pas d'augmenter. C'est l'inflation.
Ah oui.
Voilà. C'est l'inflation provoquée par l'excès de monnaie. Parce que on a
Autrement dit, l'or, la valeur...
Ah ben, de chaque unité diminue.
Voilà, c'est ça,
sûr.
La valeur de l'or et de l'argent diminue, parce qu'on a trop.
Bien sûr. Et on commet l'erreur de penser qu'en injectant de la monnaie, aujourd'hui c'est des crédits numériques, hein, on va créer de la croissance. Parce qu'on est trop influencé par Keynes. Qui préconisait le déficit budgétaire pour sauver l'économie, les économies des années 30, de la crise des années 30.
Oui.
Mais ce n'est pas la monnaie qui crée la croissance, c'est la croissance qui crée la monnaie. Donc,
ou du moins qu'il la fortifie. Enfin,
mieux que ça.
Oui, parce qu'on est obligé d'avoir de la monnaie pour les... c'est le sens de l'activité économique, quoi.
Oui, vous avez dit le sens, c'est très juste, parce qu'il me semble qu'en réalité, il y a, dans une économie qui est prospère, une sécrétion de monnaie. Un peu comme la moelle épinière fabrique le sang pour l'organisme. Pourquoi ? Prenons un exemple très simple. Vous êtes exportateur. Vous exportez je ne sais quoi, et vous touchez des dollars, ou des yens, ou des yuan, des renminbi, ou tout ce que vous voulez. Chef d'entreprise, vous n'allez pas payer vos ouvriers en dollars. Donc, vous allez revendre vos dollars à la banque commerciale. Vous allez en garder une petite partie pour acheter sur la zone dollar, par exemple.
D'accord, ouais.
Mais vous revendez à la banque commerciale qui va vous donner des euros, ou de la monnaie nationale. C'était des francs à l'époque.
Bon. Oui.
Vous vous souvenez des francs, non ? Ça vous dit quelque chose ?
Ah, mais moi, je continue de dire les francs, parce que je prévois la disparition de l'euro, et donc je dis toujours, alors c'est combien ? 3 francs ? Ah non, monsieur, c'est 3 euros. Oui, mais je sais, c'est une question de vocabulaire.
Donc, notre chef d'entreprise, il a vendu à la banque une partie des dollars qu'il a... Et vous voyez que, du coup, enfin, de la sorte, plutôt, le stock de monnaie nationale va augmenter du fait même de cette vente de dollars.
Oui, oui. Vous voyez bon, il va acheter de l'euro avec des dollars.
Mais attendez, la banque commerciale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut pas non plus payer ses employés ou garder, elle va garder des dollars évidemment pour le change, pour le marché, etc. Mais elle va les revendre à la banque centrale, qui va réinjecter de la monnaie nationale dans le circuit. Vous voyez comment, en réalité, l'activité économique module en quelque sorte la quantité de monnaie nécessaire pour les échanges. Si les échanges sont faibles, ben, il y aura moins de monétarisation. Si les échanges sont forts, il y aura une sécrétion de monnaie plus forte. Donc, c'était possible cela jusqu'aux années 90-2000. Car nous verrons tout à l'heure que la monnaie a changé de nature.
Mais ça, c'est intéressant parce que on en arrive à comment il s'appelle, Friedman, qui disait que l'inflation ne s'expliquait que par une seule chose, c'est quand il y a trop de monnaie par rapport à l'activité.
Oui, mais de ce point de vue-là, il avait raison. Oui. Il avait raison.
Ça, vous dites que ça, c'est en train de changer.
Ben, c'est-à-dire que c'est en train de changer dans la mesure où la monnaie n'est plus le reflet de l'activité économique. Elle est devenue trop discrétionnaire. Elle descend d'en haut comme ça, sur des considérations de politique économique, de politique monétaire, qui sont politiques et pas assez monétaires.
Je vous propose que nous fassions une petite pause, parce que là, nos auditeurs en ont déjà bien appris, beaucoup de choses, c'est très très dense, très riche. On fait une petite pause et on enchaîne.
Très bien.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Nous enchaînons sur ce...
Alors, on a circulé entre le Moyen-Âge, l'époque moderne, et le XXe siècle, le XXIe siècle. Je voudrais rappeler quelques questions de base, éternelles. Quelle valeur a la monnaie que j'ai dans la poche ? Quelle valeur va lui attribuer la personne avec qui j'échange ? Acceptera-t-il de renoncer au bien qu'elle me cède contre ce que je lui offre ? C'est ça la vraie question.
La monnaie fiduciaire, là, pour le coup, à laquelle je fais confiance.
Il faut distinguer. Donc, monnaie métallique, monnaie fiduciaire, monnaie scripturale, ce sont les trois formes de la monnaie. Enfin, il y en a d'autres, des formes. Il y a ce qu'on appelle la quasi-monnaie. La quasi-monnaie...
C'est quoi ça, oui ?
Alors, c'est de l'épargne très liquide. C'est-à-dire que vous avez 3 sous sur la caisse d'épargne, 1,5% de rendement, bon, c'est pas brillant, mais vous pouvez à tout moment la faire revenir dans votre portefeuille.
Donc oui, c'est pas une obligation...
C'est de la quasi-monnaie.
Oui, oui.
Bon, et puis, moins elle est liquide, moins elle est quasi-monnaie, plus elle entre dans la sphère de l'économie monétaire. Et on peut échanger des monnaies, on peut investir sur des monnaies, faire même des spéculations à très court terme, avec des effets de levier multiples. Ça, c'est du business. Hein. On ne va pas s'étendre sur le business. Mais la monnaie est devenue une marchandise comme une autre. Hein. C'est ça le problème aujourd'hui. Elle s'achète, elle se vend, etc. Mais quelquefois, par nécessité, d'autres fois, uniquement pour s'enrichir, bien sûr. On peut s'enrichir uniquement en faisant tourner la monnaie. Bon.
Excusez-moi, la titrisation, par exemple.
Alors, oui. Alors, la titrisation... C'est de mettre sur le marché des actifs...
Qui sont des promesses, en fait.
Qui ont déjà été souscrits,
ouais.
Mais il faut les rendre moins liquides
C'est pour, ça que
pour qu'ils puissent circuler sous forme de valeur boursière ou monétaire. Hein. C'est ce qui s'est passé avec
la crise des subprimes.
Ouais. Parce que, en fait, les banques détenaient des créances... sur des ménages d'une solvabilité douteuse, mais elles ont titrisé ces créances et les ont revendues à des banques. Et ça a parcouru toute la chaîne financière, et c'était la vérole
sur le bac clergé.
Voilà, la titrisation. Alors, il peut y avoir une titrisation d'ailleurs d'actifs monétaires, hein, ça peut se faire, c'est tout à fait...
Et donc là, ça devient de la monnaie plus solide que la monnaie liquide dont vous parliez.
Elle devient moins liquide, peut-être pas aussi solide parce qu'elle est spéculative souvent.
Oui.
Mais voilà, c'est alors.
Oui, parce que le jour où vous vous rendez compte que tout ça, ça valait rien, elle n'est pas solide du tout.
Oui, mais le problème, c'est que bon, évidemment, la monnaie métallique encore une valeur, si elle est en or, mais il y a belle lurette qu'on n'échange pas en or.
Oui.
Bon,
oui.
Non plus qu'en argent, hein.
Donc, votre compte de caisse d'épargne, qui est liquide, pour le coup.
Oui, c'est ça.
Il n'est pas si fiable que ça, en réalité. Ça dépend de la santé de la monnaie en question.
Mais si vous voulez, bon, aujourd'hui, nous avons beaucoup de monnaie papier.
Oui.
Bon. Alors, le papier est une invention chinoise, comme vous le savez. Et la monnaie papier est aussi une invention chinoise. Hein. Les Chinois, vous savez, ils ont inventé beaucoup de choses.
Oui.
Et la monnaie papier est inventée au 4e siècle par les Chinois. 4e siècle de notre ère.
Nos émeutiers leur doivent beaucoup, avec les feux d'artifice, etc.
Ils ont inventé la poudre. Hein.
Eh oui, ils ont inventé la poudre.
Nous n'avons pas inventé la poudre.
Et non. Sauf qu'on a su la retourner contre eux plus tard.
Oui, bien sûr. Oui, la politique de la canonnière.
Oui, c'est ça, voilà.
The gunport policy.
Alors ici, c'est interdit.
Ah, c'est interdit.
Et en sortant, il faudrait que vous mettiez une pièce dans le petit cochonnet.
I am very sorry.
Vous aggravez votre cas, docteur. Parce que nous sommes
là. Perry, avec sa canonnière, a bombardé.
Oui.
Nagasaki.
Oui, c'est ça, le Japon.
Pour ouvrir le Japon. Il appelait ça gunboat policy. Mais je mets ça entre guillemets.
Oui, bien sûr. Ah bah oui, si on ouvre les guillemets, ça va.
La politique de la canadienne.
Donc on a le droit de parler latin, grec, et anglais, c'est pas très bien vu.
D'accord.
On est une radio de la francophonie. Voilà.
Très bien. Alors, la monnaie papier. Alors, la monnaie papier n'est pas tout à fait la lettre de change. La lettre de change, c'est une astuce remarquable.
Des croisades, ça rend
oui.
ça.
Alors, ouais. Les Templiers utilisaient cette technique. Mmh. Et avec des techniques bancaires extrêmement sophistiquées pour éviter de transférer des fonds d'une place de Templier à l'autre.
Ouais.
Et de fait, la lettre de change permet d'avoir un certificat
oui.
de créance sans déplacer l'or.
Et sans risque de
sans
perte,
risquer,
c'est ça.
Ouais.
De se les faire voler ou que le bateau coule.
Ouais, voilà. Ouais. Donc, le papier-monnaie va connaître un essor considérable au XXe siècle, mais il existe déjà. Et puis, les tentatives de billets de banque. Alors, c'est l'Angleterre qui invente le billet de banque. Palmstruck. Invente. Je suis désolé, hein, c'est l'Angleterre. Hein. Je peux. Bon.
Palmstruck, quand c'est dans le texte, ça bon, va. Alors,
Palmstruck ouais. invente le billet de banque à l'extrême fin du XVIIe. Mais c'est Law, avec l'affaire de Law.
Le fameux système de Law, oui.
Qui va, ouais. évidemment, généraliser le billet de banque.
Ouais.
Et il voulait interdire aux Français de posséder de l'or. Hein.
Bon. Comme Roosevelt.
Roosevelt, en effet, interdit aux Américains en 1933 pour, de posséder de l'or. Pour faire remonter le dollar. Et d'ailleurs, c'est toujours vrai. Chaque fois que l'or monte, le dollar s'inquiète.
Ouais.
Mais ça, c'est vraiment le problème du XXIe siècle. Vous allez voir que...
Ça, il faudra que vous nous parliez un peu de cela.
Oui.
Du cours de l'or et de l'argent qui
oui.
s'est effondré avec la guerre en Iran.
Oui.
Alors que c'est contre-intuitif.
Oui, mais c'est normal. Parce oui. qu'il y a un effet de correction... comme sur les places boursières.
Vous pensez ça, oui.
Oui, bien sûr. Bien
ça ne viendrait pas seulement du fait que les monarchies pétrolières n'ayant plus aucun pétrole à vendre, sont obligées pour vivre de vendre leurs réserves en or.
Ouais. Et l'offre de ouais. métal a ouais. augmenté et fait baisser son prix. Ça, ouais. c'est vrai. Et c'est la conséquence de la guerre. Mais c'est là un phénomène presque naturel, si vous voulez. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel.
Oui, c'est hein. ce qu'on dit, oui.
Oui, bah, oui. Et pourtant, la bourse ne se porte pas si mal. Bon. L'affaire de Law a été suivie aussi d'une autre tentative de billet, c'est évidemment les assignats.
Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur Law ? Parce
oui.
que le fait que ça se casse la figure, est-ce que c'est un phénomène purement monétaire ? Est-ce que c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement ?
On est arrivé là parce que, évidemment...
C'est une chaîne de Ponzi
Non,
c'est pas une chaîne de Ponzi, non.
Une pyramide de Ponzi.
Une pyramide, pardon, oui.
Non. C'est tout simplement le fait qu'on a émis trop de billets et que, donc,
voilà,
ça a déprécié.
Oui, d'accord.
Déprécié exactement comme pour les assignats. Sauf que l'assise des assignats, c'était évidemment les biens du clergé.
Alors que là, l'assise, c'est l'outre-mer. C'est l'Amérique, c'est ça ?
Oui, c'était l'or aussi. C'était la
c'est l'or aussi ?
Oui, bien sûr.
Chez Law, oui.
Oui, mais dans tous les cas,
quand je parlais,
on abuse ouais. du droit de seigneuriage, si je puis dire. Et on
de
se
l'État,
livre,
oui, voilà.
On se livre à des...
Mais quand je parlais de Ponzi, c'était effectivement une mauvaise comparaison, mais il y a quelque chose de ça dans la mesure où les premiers qui ont revendu leur valeur, eux ont gagné beaucoup d'argent, et donc en fait c'est
évidemment.
Un peu prendre à Pierre pour donner à Paul, enfin
évidemment,
c'est un
oui.
peu ça quand même.
Et en effet, ceux qui ont quitté Madoff
suffisamment tôt, oui, voilà.
ils s'en sont tirés.
Oui.
Mais voilà, et les derniers sont...
Donc il y a des familles qui se sont complètement ruinées avec le système de Law.
Ah oui, complètement. Et alors, ensuite, les assignats, bon, vous connaissez leur sort, qui a été désastreux. On trouve encore dans toutes les brocantes des assignats.
Ah oui,
Et dans les bonnes familles, on trouve encore des assignats qui n'ont de valeur que historique, bien sûr. Mais il n'y a pas de... C'est un échec cuisant. Parce que, en fait, une partie de l'or et de la fortune française était partie à l'étranger. Les émigrés n'étaient pas tous riches, mais certains avaient quand même fui la France. Et les révolutionnaires ont fait fuir la richesse.
Uh-huh.
Il faut quand même s'en souvenir. Car il y a des tendances en France à faire fuir la richesse aussi. Hein,
oui, oui.
Hein, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Alors, le génie de Bonaparte...
Alors attendez, on ne peut pas dire non plus, est-ce qu'on peut dire aussi que ces assignats, ce serait un peu de la planche à billets ?
Ah, c'est de la planche à billets,
oui
bien sûr.
Oui, parce que ça correspond pas à la production réelle de richesses.
Alors, il y avait des richesses, comme assises.
Produisent, j'entends.
Les terres,
oui.
Les biens qui étaient considérables. Il y avait quand même, les biens du clergé étaient très importants. Mais ça a été une catastrophe humanitaire. Parce que...
Forcément, le clergé...
Le clergé, c'était la santé publique.
C'était la sécu. Oui.
C'était la sécurité sociale de l'époque. Et d'ailleurs, on le voit, sous le Directoire, et jusqu'à Bonaparte, et même après, ça a duré, même sous la monarchie de Juillet, sous... il y avait une très très grande pauvreté.
Une très grande misère, oui.
Parce que la couverture sociale assurée,
avait disparu.
Évidemment, par l'Église, avec ses biens qu'elle faisait fructifier
bien sûr,
pour entretenir les hôpitaux, les hospices, etc., ne marchait plus.
La République ne s'en vante pas de cette affaire.
Elle ne s'en vante pas. Non, mais elle ne se vante pas non plus d'avoir été génocidaire.
Non plus. Hein,
vous, vous n'êtes pas très républicain, me semble-t-il.
Très moyennement, mais enfin, je suppose que nos auditeurs le savent.
Oui.
J'ai un lourd passé.
Oui, c'est vrai.
Non,
c'est vrai.
Il m'est arrivé de me voir refuser une signature d'un livre tout à fait objectif portant sur la guerre de 14 dans une librairie où la directrice de la librairie avait dit « il a un passé politique ». Alors, comme on dit, un passé criminel, vous voyez, je m'étais présenté à des élections, voilà.
Oui,
Donc, c'était un passé politique.
Comme on dit, c'est ce qu'on appelle la tolérance.
Alors, sous étiquette de la fleur de lys, évidemment, mais bon, voilà.
Non, mais ça... Alors, c'est quand même Bonaparte. Et son ministre des Finances, qui est...
Alors, comment fait-il pour rétablir la situation?
Comment il fait? D'abord, il fait revenir les capitaux. Il fait revenir les capitaux et il dit à l'ensemble des migrés, d'autres qui n'étaient pas forcément des nobles, revenez, je vais vous assurer la stabilité financière.
Donc amnistie complète, aussi bien fiscale que politique.
Et il se fait aider par un certain Gaudin. Alors, l'histoire n'a pas retenu son nom. C'était son ministre des Finances. C'est lui qui conçoit quand même le franc germinal, 1803. Et ce franc germinal va rester d'égale valeur, sans inflation, jusqu'en 1914.
Oui. Et c'est extraordinaire.
C'est-à-dire 110 ans, quoi.
Ouais.
C'est tout à fait extraordinaire. Et sans inflation, donc...
Donc les rentiers, on passait un contrat de mariage, on savait exactement, au bout de 50 ans, ça ne bougera pas.
Regardez les images, la gravure, l'iconographie du 19e siècle, le rentier bedonnant, peint par... par les peintres, mais aussi par les graveurs. Des hommes prospères, assurés de...
Oui, imaginons que ça durerait toujours.
Voilà.
Comme quoi l'histoire est plus imaginative que nous. Mais je reviens à ma question. Pardonnez-moi. comment a-t-il réussi, Bonaparte?
Alors, il l'a assis sur l'or, hein, le franc germinal. Ça, c'est quand même important. Parce qu'il faut une assise. Il fallait une assise. Bon. Il l'a assis sur l'or et il a... Vous savez, la monnaie, on le verra avec l'Amérique, c'est pas seulement une affaire d'économie, c'est une affaire de politique au sens large. Il a assuré l'ordre public, le rétablissement d'une certaine sécurité dans le pays, sauf la répression contre, évidemment, les Chouans et les Vendéens, qui va continuer, bien sûr, avec Cadoudal, par exemple.
Oui, oui.
Mais... malgré tout...
Enfin, ce ne sont plus les grands mouvements...
Voilà. Donc, la sécurité, la stabilité, si vous voulez, si le dollar est encore le dollar, c'est pas parce qu'il est convertible en or.
C'est
convertible en or. Oui. Parce qu'on a confiance dans la flotte américaine, dans l'armée américaine, dans l'insularité américaine.
Alors, ça va peut-être changer, là.
C'est peut-être remis en cause. D'abord, parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le dollar ne représente plus que 60% des réserves.
Et non plus 80.
Non plus 80
c'est ça, 85, ouais.
Mais
n'allons pas trop vite, parce que je bois vos paroles, mais si vous allez trop vite...
Je vais trop vite. Dollar is as good as gold. Ah, mais je l'ai dit en anglais.
Oui, mais c'est une citation.
Voilà, je cite.
Et donc, ça veut dire le dollar est aussi bon que l'or.
Voilà.
Mais il faut traduire, voilà, traduire.
Il y a un moment, il a même été meilleur que l'or, puisque à partir de Bretton Woods, on considère que, bon, il faut comprendre aussi que l'offre est américaine, l'offre de produits,
la demande est mondiale. Oui, bien sûr.
Donc, évidemment, si la demande est mondiale, il vaut mieux se procurer la monnaie de celui qui a...
Bien sûr.
Bon. Alors, les accords de Bretton Woods ne sont pas très bons. Si vous voulez, on y reviendra.
Mais là, oui. Revenons à notre ami Bonaparte. Alors, donc, Bonaparte... Mais, acier le franc sur l'or,
sur l'or.
Alors que, au moment, sous la Révolution, on manquait d'or, c'est ça, pour affermir les assignats. Et est-ce que ça veut dire qu'on ne pouvait plus rien négocier en or sous la Révolution?
Alors ça,
ou on manquait d'or, tout simplement.
Je pense que... Ils pouvaient se faire des négociations en or.
Ah ouais. Donc ils ne se faisaient pas voler leur or comme les Américains par Roosevelt.
Je pense que Danton s'est enrichi. Je ne sais pas ce qui s'est enrichi.
Oui, mais ça,
je ne sais pas comment il a fait. D'autres se sont enrichis. Je pense quand même qu'il y avait des possibilités.
Ouais, ouais.
Mais parce que la France a une réserve d'or caché très ancienne. Vous le savez, elle l'avait à l'époque, elle l'a encore aujourd'hui. Hein.
Ouais.
L'or caché est considérable. L'or privé, l'or. Des familles et des... Bon, les bijoux et d'autres choses.
Ah oui, les bijoux, parce que vous comptez pas dans leur cachet les pièces qui sont achetées, les fameux Napoléon, justement, ou les Louis.
Et les pièces et les lingots, il y a ça aussi.
Oui, mais ça, c'est pas tout à fait caché dans la mesure où il y a des traces de ça ensuite.
Pas toujours.
Pas toujours, d'accord.
Ouais. Les dents en or, il n'y a pas de traces.
Ah ben non, bien sûr. Non, mais quand vous allez acheter des pièces d'or...
J'ai vu un monsieur aller vendre les dents en or...
De son épouse qui venait de mourir.
Il ne savait pas, il me disait-il, je ne sais pas à qui elles étaient. Et il avait une boîte de dents en or. Mais il est reparti avec un chèque de 350 euros. Hein.
Bah c'est ça, bien sûr, avec le cours de l'or, oui, mais évidemment.
Ouais. Alors oui, Gaudin, ministre...
Donc Gaudin, qui n'a rien à voir avec le maire de Marseille.
Non, c'est pas Jean-Claude Gaudin.
C'est pas Jean-Claude Gaudin,
cher. Son ministre Gaudin l'a bien aidé, mais vous savez... Il y a dans l'entourage de Bonaparte toute une série de...
Formés à l'ancien régime, des gens efficaces.
Appartenant à la classe... middle class, la moyenne classe, pardon.
Oui,
la classe moyenne,
oui monsieur, la classe moyenne.
Pardon.
Ça fera une deuxième pièce, c'est pas grave.
Qui a fait... Il faut reconnaître que la Révolution et l'Empire ont fait monter ces gens-là. Bon, on le voit avec les généraux. Les généraux de Bonaparte.
Bien sûr. Le phénomène ne marche pas pour la marine, parce que c'est un officier de marine, c'est un ingénieur. Si vous le tuez, le bateau n'avance pas. Mais ça marche, ça peut marcher, en tout cas pour l'armée de terre, bien sûr.
Donc tous ces hommes ont été quand même des agents de l'ombre du relâchement. Et ce qui a donné des ambitions bien démesurées à Bonaparte, mais ça c'est autre chose.
Il est aussi otage de la situation créée par la République.
Enfin, oui.
J'en reste à mon Napoléon de Bainville. C'est indépassable, Bainville. Pour expliquer.
J'ai préfacé son Histoire de France, non pas à l'époque de Bainville,
mais
un éditeur m'avait demandé, de préfacer sa réédition. Alors, cependant, le billet va se développer. Il commence vraiment à se développer au XIXe siècle. Ce sont de très grosses coupures. Des grosses coupures, c'est-à-dire que leur équivalent or est très élevé. Donc, le billet était réservé à ceux qui avaient pu faire des dépôts en or très importants. Voyez. Et donc, comme ce sont de grosses coupures, ils circulent peu. Ils circulent peu parce que, par définition, vous n'avez pas payé votre boulanger avec une grosse coupure.
Alors, est-ce que ça correspond à un ETF aujourd'hui ?
Oui.
On pourrait comparer à peu près.
La comparaison est... C'est acceptable. Simplement, de plus en plus, le papier-monnaie va exercer une séduction sur les milieux bancaires et sur l'État.
Mais quand même, quand vous faites vos achats dans la rue, donc vous avez pas ces gros billets-là...
Des petites pièces.
Donc vous avez des petites pièces.
Oui, de cuivre. Ou,
d'accord. Donc il reste...
Parfois d'argent.
Ah oui.
Et d'où le nom d'argent, évidemment.
Donc de l'or, de l'argent et du cuivre.
Oui.
Mais, le bronze a disparu, ça c'est l'Antiquité.
C'est l'Antiquité.
Ça, oui, d'accord.
Bah, le cuivre, nous l'avons encore avec les petites pièces rouges.
Mais bien sûr. Les centimes.
Il semblerait qu'on voudrait les retirer parce que leur valeur en soi est supérieure à la valeur faciale.
Ah bon ?
Il semblerait que...
Ah, mais alors c'est le moment de faire la collection de toutes
fondez-vous.
Non. Mais oui !
Mais il y a une tendance qui s'amorce à cause de la rareté relative du cuivre.
Oui.
Prix.
On se fait voler beaucoup de nos lignes SNCF, etc., par des Romanichel ou des gens comme ça, et qui volent le cuivre, en fait. C'est une idée, ça. Mais il faudra en entasser beaucoup, quand même,
pour se faire
de l'argent.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que le vrai papier-monnaie, il va naître avec le sang des poilus et avec le massacre de la Première Guerre mondiale. Parce que pour financer la guerre, ça va être tellement considérable les montants sont tellement énormes, elles dépassent complètement les budgets, que je dirais que le papier monnaie naît dans le sang.
Mais d'autant que les États font des grandes campagnes en disant « donnez votre or pour la victoire ».
Bien sûr, pour émettre encore de la monnaie, pour acheter.
Et donc c'est un or qu'on ne récupérera jamais.
Non. Et puis alors, il y a une partie du stock d'or européen qui commence à migrer vers les États-Unis. En 1945, c'est à peu près 75% du stock d'or mondial. Mais en 1919, on est déjà autour de 30-40%. L'or traverse l'Atlantique.
C'est pour garantir nos emprunts, c'est ça, nos dettes, nous, Français et Anglais, par exemple.
Ouais. Et donc, voilà, alors, le papier. Le théoricien Karl Polanyi, qui nous dit en 1920, écoutez, c'est très simple, la monnaie, c'est une fonction. Elle n'a pas besoin d'une référence métallique. Alors, les hommes politiques ont
En quelle année dit-il ça ?
Dans les années 20.
Alors qu'on en est encore au dollar or.
Alors, il y a un dollar or.
Oui.
C'est pas ce qui fait la valeur du dollar, c'est pas du tout ça. Alors, dans les années 20, donc, les dettes sont tellement considérables, tellement énormes, accumulés par les Européens pour financer la guerre, qu'on va décider de faire la conférence de Gênes, en 21, autant que je me souvienne. J'en parle dans le petit bouquin sur la monnaie.
De l'or à la monnaie papier, je refais la pub de ce bouquin remarquable, de l'or à la monnaie papier, le changement d'ère, 1914-1939. Voilà. Alors, vous considérez qu'en 1939, on a changé d'ère ?
Ah oui, complètement. Ouais. Mais on est en train...
Plus
aujourd'hui,
qu'en 45, enfin, plutôt 39 que 45.
Voilà.
C'est ça qui est passionnant.
Ouais. Et aujourd'hui, on change de nouveau d'ère monétaire.
Ça, on y reviendra, mais bon.
Mais alors, donc, la conférence de Gênes dit, voilà, vous pouvez stocker à côté de l'or pour soutenir votre monnaie nationale. Vous pouvez aussi stocker les monnaies des autres pays. Voilà. Alors...
Mais parce qu'on ne le faisait pas avant ça. Ah bon ?
Non, les banques commerciales avaient à disposition...
Oui, forcément, vous en avez parlé tout à l'heure.
Mais pour garantir la valeur de votre monnaie, la conférence de Gênes introduit la nouveauté du stock de devises à côté du stock d'or.
Oui. D'accord. Alors, donc certaines devises,
ah oui, évidemment, ils
comme
vont pas.
Le bizarrement celle du Portugal, avaient une solidité incroyable.
Oui, et à côté de ça, vous n'allez pas stocker des roupies.
Oui, bien sûr, surtout à l'époque.
La monnaie la plus stockée à l'époque, ce n'est pas le dollar, c'est la livre.
La livre britannique, oui.
Et Churchill...
Il faudra qu'on revienne à ça.
Mais Churchill va faire une erreur énorme. C'est que pour que la livre soit de nouveau désirée, il avait suspendu sa convertibilité or pendant la guerre. Il rétablit sa convertibilité or.
Après la Première Guerre mondiale, oui.
Parce qu'il était chancelier de l'échiquier.
Ah oui, il était chancelier de l'échiquier.
En ce faisant, il tue l'industrie britannique.
Et pourquoi ?
Parce qu'elle est trop chère. La monnaie estimée en livres, du coup, à cause de son rétablissement en or,
la monnaie augmente,
et les prix, anglais...
L'Angleterre n'est pas du tout compétitive, oui.
Plus du tout compétitive face à une économie allemande qui va être capable de se redresser.
Au contraire, elle, d'ailleurs, vend... alors, est-ce qu'elle vend en marque ? C'est pas possible. Enfin, est-ce que...
Non, alors...
Parce que le marque ne vaut plus rien, là, pour le coup.
Après la crise de 21...
D'accord.
Bon, mais Keynes et beaucoup d'économistes sont pour le redressement rapide de l'Allemagne, parce qu'ils savent bien qu'elle est le partenaire d'Angleterre.
Ouais.
Mais...
C'est pas la France, oui.
Alors, Churchill a ruiné l'industrie britannique, mais il a exalté la City of London, qui est une place monétaire et financière.
Oui, oui, oui.
Là, elle va continuer dans une prospérité.
Mais qui est même quasiment indépendante de l'Angleterre elle-même.
Complètement, voilà.
La cité de Londres, la cité, on va quand même dire la cité, on a bien le droit quand même.
Bon, ouais. Au Flandon.
Oui, au Flandon, on l'a dit.
Avec ce French accent. Donc, si vous voulez, sérieusement, cette conférence de Gênes admettra qu'on puisse stocker des devises pour garantir la valeur internationale de votre monnaie.
Donc ça, c'était une bonne affaire à la conférence de Gênes.
Oui.
On est avant Churchill.
Oui, mais Churchill fait l'erreur.
Année il commet cette... En 33, vous dites.
Non. Il a commis, il est vers 22-23.
Ah oui.
Mais en 31, suite au déclenchement de la crise de 29, la Grande-Bretagne va suspendre de nouveau la convertibilité hors de la livre sterling.
Alors,
laquelle livre sterling est une vieille dame, fatiguée.
Oui, elle ne correspond plus à la prépondérance britannique.
Voilà. Donc, elle est concurrencée par un jeune homme voyou, genre cow-boy, qui s'appelle le dollar.
Qui s'appelle le dollar,
voilà. Ouais. Donc on voit bien.
Oui, c'est ça.
Alors, mais entre-temps, il s'est passé quand même un phénomène. En 1920-1921, c'est l'hyperinflation allemande.
Oui.
C'est quand même extraordinaire, cette histoire. Il semblerait que les Allemands y aient contribué eux-mêmes. Non pas le peuple allemand, mais les dirigeants.
Pour éviter de nous rembourser ce
qu'on
exigeait.
Il y a eu deux accords. Sous la présidence des États-Unis, le plan Dawes et le plan Jones. Aucun des deux accords n'a été honoré par l'Allemagne.
Ouais.
Ils ont cessé de payer. À telle enseigne d'ailleurs que Poincaré a envahi la Ruhr, pardon, et que le Canard Enchaîné l'appelait Poincarour.
Il en a fait de meilleur quand même. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler à nos éditeurs que nous avions exigé un tribut à l'Allemagne, et l'Allemagne nous a payé en monnaie de singe.
Ah oui, monnaie de singe. Alors, les gens ne savent pas toujours ce que ça veut dire, monnaie de singe, mais ils savent très bien qui est le singe, hein, quand même.
Donc le singe, c'est l'Allemand qui...
Parce qu'ils ont cessé très vite de payer.
Bien sûr,
Et à cause de la survenue de la crise, mais aussi à cause de l'hyperinflation qu'ils ont connue, et qu'ils ont provoqué eux-mêmes, une certaine mesure.
Mais on en souffre forcément de l'hyperinflation,
on en souffre. Bah, les Allemands ont souffert énormément. Beaucoup pensent que c'est ce qui a permis à Hitler de...
Bah ça, c'est idiot de penser ça. Parce que la crise était résolue depuis un bout de temps lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933.
Pas résolue, les séquelles étaient là. Non. Ça, c'est un facteur aggravant en tout cas.
C'est pas plutôt la crise de 1929 qui va...
La crise de 1929 rendra impossible les remèdes qui avaient été pris contre Almar Schacht.
Le fameux,
Qui est le seul dignitaire nazi
qu'on respecte,
qui ne sera pas condamné à Nuremberg.
Oui, c'est ça.
Il faut savoir aussi que Hitler sera financé par des banquiers
américains
et de la cité.
La cité au Flandon.
Dans mon livre sur les nouvelles rondes de la servitude, je cite ces financiers américains anglo-saxons qui aiment bien financer les révolutionnaires de tout poil. Ils ont financé Hitler, mais ils ont financé aussi les bolcheviks.
Oui, Lénine et tout C'est surtout les Américains. Et puis c'est l'intermédiaire de Trotsky.
Il y a aux États-Unis.
Oui, il y a quelque chose d'un peu communautaire peut-être avec la banque, la banque juive de New York, probablement. Très, très montée contre le tsarisme, etc. Et donc il y a des motivations de cette nature. Je suggère qu'on revienne à tout cela. Et qu'on observe une petite pause, la dernière pause, donc, avant la fin de notre émission. Chers amis, nous reprenons cette émission avec le docteur Pichon dans cette émission passionnante sur la monnaie. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la monnaie.
Sans jamais oser le demander.
Oser le demander, mais là, les moins de 60 ans ne peuvent pas comprendre l'allusion que nous faisons. En tout cas, arrivons désormais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, que je représente de nouveau, qui dit le changement d'ère 1914-1939, donc vous faites allusion à la guerre des monnaies,
voilà,
que l'Angleterre va perdre contre l'Amérique, évidemment. Ouais. Et en fait, pour vous, le changement d'ère, il est en 39.
Oui,
c'est ça qui nous dérange, alors, nous, parce que pour nous, c'est plutôt 45, la victoire écrasante.
C'est même 44, c'est les accords de Bretton Woods.
Ah bah, Bretton Woods, voilà. Bien sûr, oui. Pardon, je le dis pour nos auditeurs, le dollar... monte sur le trône mondial à la place de la livre.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à 70-75% des réserves d'or mondiales détenues par les États-Unis, des mouvements d'or venus d'Europe pour financer encore les guerres. Et à Bretton Woods, on décide que le dollar est aussi bon que l'or. Il est assis sur l'or, mais on va le faire circuler pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Offre et demande, bon.
Ça sous-entend une chose, c'est que la monnaie mondiale, qui était la livre sterling, a continué à être la monnaie mondiale en dépit du fait que l'Amérique avait déjà de loin dépassé l'économie anglaise. Donc, en fait, il y a une sorte de survivance de la monnaie mondiale, même si le pays émetteur a perdu la prépondérance.
Même le franc était relativement coté, surtout après la livre et le dollar.
Oui.
Mais le franc était quand même désiré sur un certain nombre de marchés. Puis n'oubliez pas, il y avait l'Empire colonial.
Alors, c'est ce que j'allais dire.
Qui jouait en sa faveur,
bien
sûr.
Donc l'Empire colonial britannique, par exemple, évidemment, maintient à flot le caractère mondial de la monnaie britannique.
Bretton Woods, cet accord, donc, consacre évidemment la supériorité du dollar, mais contre un projet qu'avait voulu Keynes, qui, je suis critique vis-à-vis de Keynes souvent, mais là, sa thèse était qu'il fallait faire une monnaie mondiale assise sur l'or, le bancor, et que tous les échanges commerciaux se fissent en bancor, c'est-à-dire la création d'une monnaie internationale.
Donc une monnaie mondiale qu'il appelait le bancor.
Voilà.
Quelle était l'autorité pour produire cette
monnaie ? Il
avait
une assez grande autorité quand même, il était présent à Bretton Woods.
Non, je ne parle pas de Keynes. Quelle était
l'autorité du...
Il voulait quoi, une tour de Babel, un État mondial, un gouvernement mondial, une armée mondiale ?
C'est un petit peu une ébauche de mondialisation,
c'est ça.
Comme vous le savez, et ça préfigure évidemment les rêves de certains qui voudraient qu'il n'y ait qu'une monnaie mondiale.
Ouais.
C'est très très mal parti, je vous dis tout de suite, parce que on n'évoquera pas trop la question, mais la dédollarisation signifie surtout la multiplicité des devises.
Alors on essaiera de faire une émission avec
parce
vous.
Parce que de même qu'aujourd'hui, on voit bien que l'ordre international est mort, et que vous avez une multiplicité des souverainetés qui s'affirment avec les BRICS, donc les anciens non-alignés qui sont devenus évidemment beaucoup plus puissants. Mais pour en venir aux années
donc
de
44, là, c'est ça. Bretton Woods, tout ça.
Il y a eu le plan Marshall qui a évidemment permis l'exportation de dollars. Et en France, les 30 Glorieuses ont été financées par la Banque de France. C'est-à-dire que tous les emprunts étaient refinançables auprès de la Banque de France. Mais la loi de 73...
Attendez, vous parlez du plan Marshall.
Oui.
Le plan Marshall, en fait, c'est en principe l'Amérique nous donne du matériel.
Oui, pour acheter ses produits manufacturés.
Voilà, et puis ensuite les pièces de rechange, il faut qu'on les achète.
Oui, mais c'est pas une dette. A priori, c'est pas une dette, si vous voulez.
Ouais, c'est ça. Simplement, on utilise leur monnaie, puisqu'ils nous vendent les boulons en dollars après nous avoir offert le tracteur. Voilà. Je résume.
En fait, c'est un amorçage de pompe.
Oui, voilà, c'est ça, oui, bien sûr.
On met de l'eau pour que l'eau monte. Oui. On met des dollars, enfin de la monnaie, pour que l'économie... Et de fait, ça va quand même pas mal marcher, même si ça signifie que l'Amérique
met la main sur nous,
main
bien
sur
sûr.
L'Europe,
évidemment.
Et ne va cesser de le faire. Bon, alors avec l'OTAN, etc., etc., je n'insiste pas. Là où je voudrais insister, c'est la loi 73, qui sous Pompidou, va interdire le financement par la Banque centrale, le refinancement des dettes par la Banque centrale et va conduire les banques à aller sur les marchés.
Alors, quelle est sa motivation ? Y a-t-il un lien avec la déconnexion de l'or et du dollar ? Aucun.
Non, que fait Nixon ? Parce que, si, parce qu'en 71, Nixon suspend la convertibilité voilà, or du dollar.
Ouais.
De telle sorte que le dollar n'est plus convertible en or en interne, mais en externe non plus.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'or.
Il y a trop de dollars.
Mais il y a trop de dollars par rapport à l'or.
Et oui, De Gaulle avait, conseillé par Jacques Rueff, conseiller le gouvernement français de demander systématiquement le versement en or de toutes les créances détenues par la France quand elle exportait aux États-Unis.
D'accord.
Ce qui ne plaisait évidemment pas aux Américains, mais qui était typiquement gaulliste. Jacques Rueff l'inspirait en ce domaine. Alors ensuite, on va aller sur les marchés.
Alors là, vous revenez au franc, là.
Oui.
Donc pourquoi, qu'est-ce qui motive Pompidou ?
Je pense qu'il est déjà sous l'influence de cette idée que la régulation par l'État n'est pas une bonne chose. C'est vrai que nous avions de l'inflation en France. Il y a eu des périodes de la croissance est accompagnée de forte inflation.
On est avant la crise.
Bien sûr. Avant la crise de pétrolière, déclenchée par le pétrole, qui était une crise du dollar, d'ailleurs, puisque le pétrole s'achetait...
Mais comme le dollar valait plus rien...
Voilà, exactement. Vous avez compris. Oui. Le baril s'achetait entre 1 et 3 dollars à l'époque. Vous voyez ? Donc les pays pétroliers ont pensé qu'il fallait quand même une petite revalorisation.
Non, vous n'avez pas tort, sur le fond.
Oui,
même si tout ça est lié déjà à la guerre israélo-arabe. En tout
cas, c'est le prétexte.
C'est le prétexte.
Et puis, il y a eu le deuxième choc pétrolier, l'arrivée au pouvoir de Khomeini.
Oui.
Bon,
ça c'est sur les 78.
Oui, mais ça vient très vite, hein, deuxième choc.
Oui.
Bon. Mais
excusez-moi parce que je vous interromps tout le temps, mais il faut dire que vous parlez trop vite.
Ah, je parle trop vite.
Vous réfléchissez tellement vite. Alors, et nous sommes vos petits élèves.
Non, mais
Pompidou, qu'est-ce qui le motive? Parce qu'il n'y a pas de crise économique à l'époque.
En 73, c'est déjà.
Il est pas loin de mourir, lui, en 73.
C'est idéologique, je pense.
C'est idéologique, oui,
malheureusement,
c'est ça, je voulais vous entendre.
C'est un pragmatique, mais il commence à être influencé par le néolibéralisme.
Passage chez Rothschild aurait joué quelque
peut-être
chose.
Peut-être, oui. Mais le néolibéralisme impose le marché comme prémisse de la mondialisation, ça c'est certain. Le paradigme dominant, c'est toute évolution du marché va conduire à l'équilibre, nous éviterons l'inflation, nous éviterons l'excès de pouvoir.
De l'État. Oui, c'est ça, oui, tu parles.
Ah, oui.
Autrement dit, on voulait éviter les excès de Philippe le Bel, mais on y est revenu avec l'assouplissement monétaire.
Voilà. Souvent, je prends cette comparaison, puisque j'ai évoqué Philippe le Bel.
Oui.
Ce sont les Templiers qui triomphent de Philippe le Bel, alors que Philippe le Bel a triomphé des Templiers. La mondialisation, les Templiers, quels que soient les mérites des Templiers par ailleurs. Mais donc.
Pompidou fait ça.
Et la monnaie se dénature progressivement. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le cas de l'exemple de l'exportation, vous savez, du chef d'entreprise qui exporte, il y a une fabrication monétaire à la mesure de la croissance. Aujourd'hui...
C'est normal. Normalement, on fabrique de la monnaie à la mesure de la croissance.
Aujourd'hui, avec la monnaie...
On fabrique de la monnaie dans le vide. Ouais.
Voilà, exactement. La monnaie devient de plus en plus artificielle. Elle est discrétionnaire, elle est à la merci du pouvoir politique, et c'est le pouvoir politique de Mme von der Leyen et de la Commission européenne. Et on s'achemine, évidemment.
Mais enfin, ça ne date pas de Mme von der Leyen.
Non, mais on s'achemine vers la monnaie numérique. Le cadre législatif a été posé par l'Union européenne.
Alors, en quoi ça consiste et qu'est-ce qui motive cette monnaie numérique ?
Ce qui motive, à mon avis, fondamentalement, cette monnaie numérique, c'est le pouvoir. C'est de faire de l'Union européenne un État fédéral. Avec une monnaie qui serait numérique.
Donc la monnaie qu'on aurait dans nos poches, nos billets de banque et nos pièces, on serait obligé de les rapporter car elles perdraient leur valeur.
Tout à fait ça. Je vais en donner l'évolution.
D'accord.
Début 27, test de la monnaie numérique, généralisée en 28 ou 29. L'euro numérique aura un pouvoir libératoire illimité, comme l'étaient les billets, par exemple.
Hein. Bah, c'est limité par quoi? Par
Pouvoir libératoire illimité, garanti par l'État. C'est-à-dire que ça vaut 100 francs, et le commerçant est obligé de les accepter.
Oui.
Pouvoir libératoire.
Donc c'est un pouvoir libératoire illimité.
Oui.
Ah oui, j'entendais limité.
Non, illimité.
Vous voyez, je
limité,
vous parliez trop vite. Ou alors c'est moi qui suis un peu sourd, faut dire.
Donc, mais l'euro numérique aura un pouvoir libératoire illimité, comme je vous le disais.
Illimité,
mais,
oui.
À la différence d'un compte en banque classique, la Banque de France devra nommer un établissement de dernier ressort obligé d'ouvrir un portefeuille en euros numériques. Et les banques s'inquiètent parce qu'elles risquent de perdre une partie de leurs dépôts. Vous voyez ?
Oui.
Et ça, c'est pas tranché encore.
Pourquoi une partie seulement ?
Ou tout ou partie de leur dépôt. Ah. Parce que la monnaie numérique va prendre le pain sur le cash. Alors, les billets et les pièces. Bon. Les billets et pièces qui servent évidemment au trafic de drogue, etc., etc. Donc, au nom de la morale...
Voilà, c'est ça. Voilà.
La morale, c'est
le bandeau, prétexte
la
sera ça.
Sauf que les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les grands-parents qui donnent des étrennes à leurs petits-enfants...
Bah oui, c'est
comment
fini
ils vont
tout
faire
ça, oui.
Alors, non, l'Europe a dit non, vous allez conserver le cash. Ne vous inquiétez pas.
L'argent liquide, parce que le cash, ça va faire votre troisième pièce dans notre petit cochonnet.
Oui, pardon, autant pour moi. Mais, non mais, attendez, le problème c'est que l'Europe dit, non, on va vous laisser les billets et les pièces. Mais il faudra qu'on suive les mouvements, autrement dit.
Qu'on suive quel mouvement?
Les mouvements de pièces et de billets.
Il faudra surveiller.
Voilà, donc... Voilà. Vous avez tout compris.
Donc, quand vous sortirez de l'argent d'un distributeur automatique de banque...
Un DAB. Au bonheur des DAB.
Au bonheur des DAB. Et là, ce sera plus tellement le bonheur des DAB.
Ben, vous serez...
Vous serez listé, surveillé.
Comme votre monnaie numérique. Oui. L'Europe a dit, oui, on va suivre les mouvements... Ça,
ouais.
Au nom de la morale, bien sûr.
Ouais,
j'avais publié dans Politique Magazine un article sur la monnaie numérique et son avenir... qui n'est pas tout à fait réjouissant, il faut bien le dire.
Pour la liberté publique.
Ah ben, évidemment.
Ah ouais.
C'est pas Big Brother, c'est Big Mother. Hein, Madame von der Leyen, que je prends comme symbole, évidemment.
Oui, parce qu'encore une fois, bon...
Les banques...
Je ne suis pas payé par Madame von der Leyen pour dire du bien d'elle.
Les banques vous demandent déjà... Quand vous voulez retirer une somme de 2000 ou 3000 euros, vous demandez, mais pourquoi faire? Bon...
Oui.
Ça vous regarde, madame? Vous êtes de
c'est
la police?
C'est vrai, ça, mais oui, c'est vrai.
Mais un jour, j'ai dit ça à une conseillère bancaire.
Ah oui,
vous êtes
oui,
de la police?
Oui. Moi, je voulais de l'argent pour payer, je sais pas quoi, pour louer une villa au bord de la mer. Et le directeur de l'agence était venu me voir. Qu'est-ce que vous comptez faire de ça? Incroyable! Alors, qu'est-ce qu'il attendait que je lui dise? Ben, j'ai quelques lignes de coke à acheter. Non, mais enfin, bon, c'est ridicule.
Non, mais ça montre bien.
C'est
l'intimité. Ouais. Je lui ai dit, je l'ai lâché au. C'est pour acheter un slip.
Vous avez dit ça? Ah, mais ça m'étonne pas de vous.
Non, mais soyons sérieux.
Le docteur Pichon est très propre sur lui comme ça, mais bon,
il
peut avoir un langage un peu vert.
C'est l'intimité de
la personne. Bien sûr.
Voilà. Mais, donc. Et une fois, j'avais vendu un petit tracteur autour de 1000 euros.
Oui.
Je me pointe à la banque pour déposer en liquide. Et la gamine me dit...
D'où est-ce que ça vient?
D'où ça vient? Bah, je lui ai dit, j'ai vendu un petit tracteur. Ah non, il nous faut la carte grise vendue, etc. Alors, je lui ai dit, bah, écoutez, la prochaine fois, je garderai pour moi, je ne mettrai pas sur mon compte. Et puis voilà. Non, mais c'est nous sommes dans la folie complètement.
Et
mais
si tout le monde garde cet argent pour eux, elle perd son emploi.
Ben voilà.
Mais je ne crois pas qu'elle fasse le lien. Enfin,
non, mais ça,
les gens pensent
pas.
Que l'argent pousse dans les arbres. Donc,
bien sûr. Ultime étape de la monnaie numérique, le revenu universel. C'est-à-dire que...
Qui fait rêver beaucoup de monde.
Oui, bien sûr. Ah ben, le premier, c'est qui en
c'est
parle
ça,
le premier
drame.
Qui en a parlé le premier? Thomas More. Dans l'Utopia.
Mais oui, ce livre est terrible.
Enfin, terrible
bon, il a
terrible.
Été canonisé parce que c'est mérite de bons catholiques.
Mais, le
mais, mais son livre est une horreur. C'est vraiment c'est le totalitarisme.
Communiste.
Mais bien sûr, épouvantable.
À un moment,
je renvoie nos éditeurs à un admirable
l'Utopia.
Ouvrage. Non, Histoire mondiale des idées politiques.
Ah oui, pardon. Écrit par Yves-Marie Adeline.
De votre serviteur.
Oui, mais alors, à un moment,
terrible,
il dit
cet bonhomme.
Il est important que les réserves des ménages soient dans des locaux dont la porte doit être ouverte par n'importe qui.
Oui.
Bon, alors, il parle de revenus numériques.
Il fallait changer de domicile régulièrement.
Universel. Vous avez des gens très différents qui en parlent. Vous avez par exemple l'ineffable Villepin en parle. Vous avez pas mal des gens à droite et à gauche. Non, mais le problème, c'est qu'en réalité, la monnaie numérique va être...
Attendez, là, on n'était pas à la monnaie numérique.
Oui, mais justement, parce que vous remplacez la monnaie numérique, ou vous allez recevoir un revenu universel en monnaie numérique. Mais vous aurez un livret sur lequel on a aussi votre certificat de vaccination, vos papiers.
Ah donc c'est chinois, quoi, c'est carrément.
C'est le contrôle social.
C'est le contrôle social chinois.
Ouais. Alors, je ne dis pas que ça sera fait. Je dis que c'est dans les tuyaux. C'est dans les projets.
Mais on peut redouter, parce que la génération de nos enfants n'a toujours pas réalisé, parce que je comprends pourquoi, enfin, quand on leur dit qu'entre leur génération et la nôtre, il y a eu une chute des libertés publiques impressionnante, et ils ne nous croient pas. Bon, alors tant
mais
pis.
Mais c'est en effet...
Et en effet, il y a...
Attentatoire aux libertés publiques.
Mais oui,
considérable.
Et il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ne rêvent que de ça. Surtout que si l'IA détruit des emplois, etc., il y a beaucoup de gens que ça rassure.
Voilà, parce qu'ils auront un revenu qui va leur tomber du ciel.
Ouais. Mais contre un crédit social,
un contrôle social. Vaccination, impôts, compte bancaire.
Oui, il faudrait être totalement transparent.
Voilà.
Ouais, totalement transparent.
Orwell en a rêvé.
Et soi-disant pour lutter contre le trafic de drogue.
Oui, parce que les raisons morales sont toujours.
Oui, alors que l'affaire Naël, je l'ai déjà dit sur ces ongles-là, et je le répéterai, est évidemment une affaire de go fast. Alors je suis obligé de le dire, parce que là c'est une expression bien
anglaise.
Que nous fussions une radio francophone, c'est évidemment un convoyeur. Voilà. Et en tout cas quelqu'un qui allait conduire cette voiture au convoyeur de drogue. Parce avec une voiture de ce prix-là, bon. Et immatriculé en Pologne qui plus est, donc de toute façon il peut passer tous les radars qu'il voulait en France. Et donc, or, cette affaire-là est complètement passée sous silence. D'ailleurs, le policier s'est vu confirmer sa condamnation, il n'est pas encore condamné, mais enfin, sa mise en examen pour meurtre, et on ne parle toujours pas de la drogue. Donc tout ça, c'est complètement hypocrite. Que cherchent tous ces gens-là? Parce que je suppose que M. de Villepin n'a pas de soucis à avoir sur sa fortune personnelle, ses revenus. Il n'a pas besoin du...
Quoique la mauvaise fortune actuelle dans certains pays du Golfe pourrait peut-être voir sa propre fortune. Bon, n'allons pas plus loin.
Oui.
Mais pour en venir à la monnaie numérique et au portefeuille de revenus universels, à ce moment-là, évidemment, l'argument, ce serait qu'on fusionne toutes les allocations dans ce revenu universel. On fait disparaître les allocations familiales, tout, la question chômage, tout ça, c'est fondu dans le revenu universel.
Et alors là, vous dites que c'est une révolution, mais on reste toujours dans le phénomène de la monnaie, sauf que c'est plus une monnaie d'échange. Il n'y a pas d'échange.
Enfin, là, elle servira à des échanges.
Parce que je consomme, donc j'échange. Enfin bon, je participe à l'activité économique.
Elle peut servir à des échanges.
Oui.
Mais elle, fondamentalement, elle est un instrument discrétionnaire de contrôle social centralisé. N'a plus rien à voir avec la monnaie telle que nous venons de la décrire au cours des siècles.
Bien sûr.
Et si nos auditeurs, téléspectateurs l'ont bien compris, là aussi, c'est un changement d'air. Complet.
C'est ça.
Alors, bon, il peut y avoir des accidents, l'euro peut échouer, ça rendra les choses compliquées. Et puis, il y a aussi, l'or est toujours une valeur.
Oui, mais si on vous le confisque comme sous Roosevelt...
Alors Roosevelt, il n'arrivait pas à confisquer, mais il interdisait en effet d'acheter.
Ah, il interdisait qu'on l'achète.
Et c'était pour.
Mais on pouvait en avoir.
Oui.
L'argent qu'on avait, l'or qu'on avait déjà, on pouvait le conserver.
Oui, on pouvait pas envoyer des policiers dans tous les foyers non plus. Mmh. Mais en fait, si on envoyait des policiers dans les foyers français, ils trouveraient beaucoup d'or. Hein. Oui. Le stock d'or des Français, le stock d'or privé est supérieur au stock d'or de la Banque de France. Moins l'amputation qui a été faite par M. Sarkozy, de 600 tonnes d'or,
oui.
qu'il a vendu à vil prix.
Oui, absolument, à vil prix, oui, oui.
Qui a été une erreur parmi les nombreuses erreurs de M. Sarkozy.
Oui, il en a fait beaucoup, oui. Je me souviens d'un article d'un homme que j'ai bien connu et pour qui j'ai même travaillé, Jean Arthuis, contre cette opération de vente d'or.
Vous avez été son
directeur de cabinet.
Oui, je le rencontre régulièrement.
Ah bon? Vous êtes un peu dans ces pays-là.
Je suis dans ces pays-là.
Oui, c'est ça. Non, quand je suis comme ça, il n'y a aucun mépris de ma part.
Alors,
donc ça, c'est la fin, quasiment. On arrive à la fin de la monnaie que nous avons connue.
Alors, oui, c'est plus...
Si on en arrive là, ouais.
Alors, si on prend les fonctions d'Aristote, bon, elle sera encore un intermédiaire des échanges. Elle sera encore une estimation de la valeur d'un bien, mais comme instrument de réserve de valeur.
Ouais, ce sera surtout un instrument de contrôle des masses. Alors.
Surtout ça, oui. C'est-à-dire un atout supplémentaire.
Oui, un atout supplémentaire pour contrôler les masses.
Et pour faire une Europe fédérale.
Bon, l'histoire, je l'ai dit tout à l'heure, est plus imaginative que nous-mêmes. Et je pense que, bon, ça n'arrivera pas, ou du moins ça arrivera peut-être, mais en tout cas ça ne durera pas.
Ah ben, les unions monétaires ont tout échoué dans l'histoire.
Tout échoué, voilà.
L'Union latine a échoué.
Ça serait intéressant qu'on y revienne d'ailleurs à ça.
Oui, l'Union latine.
Mais encore une fois, j'aimerais bien vous réinviter, j'espère que... Alors, pour le mois de... d'août, septembre, c'est peut-être un peu... Enfin, on verra comment on se retrouvera. J'aimerais beaucoup, si vous l'acceptez, que vous reveniez nous parler d'un phénomène très, très intéressant qui est la dédollarisation.
Parce que si on parle de dédollarisation, on parle de mondialisation et de démondialisation.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et on parle des empires. On revient plutôt, alors, sur la logique de votre dernier livre, pour lequel je vous avais invité, sur TV Liberté.
J'en sors tout le temps, donc...
Bah oui.
Un des derniers, vous voulez dire?
Non, c'était le dernier, sur les grands états.
Ah, géopolitique.
Oui.
Ah non, j'en ai publié d'autres depuis.
Ah bon, oui. J'aimais bien ce livre. J'oublie parce que j'aimais bien ce livre, il était intéressant.
Je suis très flatté, très flatté.
Donc, nous sommes là dans le... C'est plus tout à fait l'histoire monétaire telle que j'ai essayé de vous la résumer...
Les géopolitiques actuelles éclairées par l'histoire.
Éclairées par l'histoire, voilà, exactement.
Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, docteur Pichon. Je pense que c'est le moment de rendre l'antenne et nous nous retrouverons très bientôt, je l'espère.
Merci.
Merci
Yves-Marie. Je salue tous les auditeurs et les téléspectateurs de Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie. Merci.
Venez d'entendre le libre journal d'Yves-Marie Adeline, émission préenregistrée le 12 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie lundi 13 juillet de 14h à 15h30 et réalisée par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.